je vais prier un peu. J'aimerais que tu disposes ton cœur, mais que tu disposes aussi ton corps. Parce que il n'y a pas d'activité spirituelle, il n'y a pas d'épanouissement de l'âme sans quelque part permettre à son corps en fait d'être au repos. Voilà, sans disposer son corps pour que l'âme puisse se mouvoir. Voilà. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta puissance au milieu de nous, merci pour ta gloire, merci pour ton amour. Bien-aimé, la grâce de Dieu est au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, en ce premier jour, en cette réouverture de nos activités, en ce temps, Seigneur, où tu viens encore ouvrir une nouvelle année de grâce pour nous, je prie dans le nom de Jésus que cette année, ton œuvre soit véritablement une œuvre de gloire pour tous ici. Que ton œuvre, Seigneur, soit bénissante et se propage. Que ton œuvre, Seigneur, soit tellement grande que nous soyons, Seigneur, sous le choc de ce que tu sois si bon et si grand pour nous. Viens, Seigneur, au-delà de nos faiblesses, nous emmener véritablement là où tu veux nous emmener. Nous te faisons confiance et nous croyons en ton amour et en ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta gloire. Dispose nos cœurs, que nos pensées, Seigneur, soient rendues captives par la puissance du nom de Jésus. J'invoque maintenant, Seigneur, tes anges et le feu de ton esprit, sur tout esprit mauvais et méchant, impur, qui viendrait, Seigneur, pour nous empêcher de vivre ce temps de grâce en bénéficiant de tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Que maintenant les anges, que les saints du ciel, que la mère de Jésus, que toutes ces personnes qui ont dévoué leur vie au Christ sur la terre, que du haut du ciel, véritablement, ils intercèdent pour nous et que véritablement, nous puissions, en communion avec eux, adorer Dieu dans la vérité. Seigneur, que le diable n'ait plus aucune emprise, aucune force dans la vie de quelqu'un ici, dans nos vies. Pendant que je suis en train de prier maintenant, il y a une personne qui est soumise à un démon qui en fait influence négativement ta vie. Ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? C'est que là tout de suite, tu vas bâiller, là tout de suite. Tu vas bâiller là tout de suite. Tu vas bâiller là tout de suite. Merci mon Dieu pour ce que tu fais. En fait, ne te retiens pas de bâiller. Ce qui se passe là maintenant, c'est véritablement le Seigneur qui te délivre de ce démon. De paresse. Ce démon est responsable de la paresse, au nom de Jésus. Si tu dois bâiller plusieurs fois, fais-le, il est responsable de la paresse. Nous le chassons maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, que ton feu s'étende sur nous. Pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit visite quelques-uns maintenant. Tu as les pieds qui brûlent, tu as la poitrine qui brûle, tu as le dos qui brûle, tu as ton cœur qui est rempli de paix. Tu sens que tu as envie de prier, tu sens que tu es dans une atmosphère de prière. C'est véritablement la gloire de Dieu. Ce soir, le démon va être dépouillé. Ce soir, nous allons être libérés dans nos intelligences, dans nos pensées. Il y aura un vrai profit, un bénéfice sur le plan spirituel, mais un épanouissement pour nos vies, parce que la parole de Dieu est vivante, efficace, résurrection et vie. Il y a une femme ici. Tu es comme en état de mort. Voilà, tu es morte intérieurement. Ce que tu vis fait en sorte qu'intérieurement, tu es complètement mort. Tu es tellement brisé. Tu es comme morte intérieurement. les problèmes, les soucis de la vie font qu'aujourd'hui, intérieurement, tu te sens mort, tu te sens comme si tu ne vivais pas, comme si tout n'était que tristesse, tout n'était que combat, tout n'était que acharnement contre toi, tout n'était que malchance. Tu es brisé, tellement brisé. Ce soir, le Saint-Esprit te rejoint. Jésus-Christ de Nazareth est la résurrection et la vie. Accroche-toi à sa parole. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Comprends bien ce que je te dis. Tu verras sa gloire. Il y a une femme, tu es malade au niveau de ton sein gauche. Toi, par contre, je voudrais que tu puisses te désigner. Je voudrais que tu puisses te désigner. Tu as des problèmes au niveau de ton sein gauche. Je ne sais pas si tu as des douleurs, si tu as une boule, si tu as un cancer, si tu as le sein qui a durci. Je ne sais pas quel problème tu as exactement. Mais tu as un problème au niveau de ton sein gauche. J'aimerais, en fait, maintenant que tu puisses simplement faire un message. Fais un message où tu mets simplement « Amen ». Voilà. Je veux prier. En fait, Dieu veut te guérir. Dieu va te guérir. Dieu est en train de te guérir. Sein, tu as un problème au niveau de ton sein gauche. Je dis bien au niveau de ton sein gauche. S'il te plaît, j'aimerais que tu fasses un message. Si tu ne te désignes pas, je ne peux pas assurer que l'œuvre de Dieu se fera et ira jusqu'à son plein accomplissement. Voilà, c'est ça la difficulté avec les paroles de connaissance, c'est que... D'accord pour toi. OK. Alors, tu peux poser ta main sur ton sein, Charlie et Paul. La grâce de Dieu vous visite maintenant. Il y a l'une d'entre vous, je ne sais pas c'est laquelle, c'est comme si ton sein était un peu dur. Voilà, il était un peu plus dur que la normale, sinon beaucoup plus dur. Et je vois en fait comment le Seigneur est en train de le restaurer. Le Saint-Esprit le fait. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le fait. Alors, garde ton regard fixé vers Jésus-Christ, c'est lui qui le fait. Merci à toi aussi, c'est lui qui le fait. Il y a une personne ici qui a un problème au niveau de son rein. En fait, tu as un problème au niveau d'un de tes reins et tu peux, si, peut-être que tu as le diagnostic, peut-être que tu ne le sais pas. La preuve, en fait, que tu as ce problème-là, si jamais tu n'as pas encore le diagnostic du médecin, c'est que tu urines du sang. Voilà, tu urines du sang. Dieu veut guérir ton rein, c'est le rein gauche. C'est le rein gauche. Tu urines du sang. S'il te plaît, toi aussi, tu peux mettre un amen. Nous allons permettre à Dieu de vraiment, nous allons permettre au Seigneur de vraiment opérer au milieu de nous ce qu'il veut faire. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui le fait. La Bible dit qu'il guérissait les malades, il passait au milieu des gens, il faisait du bien. Tu urines du sang. Tu as un problème au niveau de ton rein, tu urines du sang, tu peux mettre un amen. Le Seigneur vient pour te guérir ce soir. Saint-Esprit de Dieu, que ta gloire soit au milieu de nous, miraculeuse, bénissante et consolation. Il y a une femme ici, tu es très triste dans ton cœur. Tu es très triste dans ton cœur. La personne qui urine du sang là, c'est pas, quand je dis du sang, c'est pas rien que du sang. Je veux dire, c'est du sang mélangé à des urines. Voilà. Désolé de donner le détail. Ça peut servir. Ça sert lorsqu'on donne le détail à nous bien nous rendre compte que Dieu nous connaît et Dieu sait ce que l'on vit. Alors, il y a une autre personne, ton cœur est vraiment très triste ce soir. Ton cœur est très triste. Vraiment, ton cœur est très triste. Ton cœur est très triste. Dieu vient véritablement te restaurer. Il vient consoler ton cœur ce soir. Il vient consoler ton cœur. C'est purement surnaturel. C'est l'onction de l'esprit parce que la Bible dit, et Jésus-Christ le dit, et je l'ai expérimenté moi, et vous aussi, vous êtes en train d'en faire l'expérience, le Saint-Esprit est Dieu, il est notre consolation, il est le paraclet, notre défenseur. Saint-Esprit, le Dieu, c'est toi qui es Dieu. Il y a de nombreuses personnes ici qui sont attachées par un péché quelconque, qui sont tristes parce qu'ils n'arrivent pas à servir Dieu comme ils le voudraient. Des personnes que le diable accuse jour et nuit parce que ces personnes essayent de faire la volonté de Dieu mais n'y arrivent pas. Ce soir, c'est une vraie vitamine spirituelle, c'est des médicaments spirituels que vous allez recevoir et que vous recevez maintenant. Il y a une grâce de l'Esprit de Dieu maintenant. Saint-Esprit de Dieu, gloire à toi, puissance à toi, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien faire. Mais toi, tu es Dieu, et je me connecte à toi ce soir. Et avec mes frères, nous nous connectons à toi ce soir. Je confie pour certaines personnes ici, est-ce qu'il y a un certain Aristide ici, Aristide? Je confie pour Aristide et aussi pour certaines personnes ici des intentions de prière auprès de Dieu. La première intention, c'est tout ce qui a un rapport avec le travail, les finances, le business et les études. Il y a énormément d'inquiétudes. Et cela alourdit l'atmosphère de notre temps de prière. Cela alourdit même, sur le plan spirituel, ton cœur à cœur avec Dieu. Cela alourdit même ta relation avec Dieu. Parce qu'il y a un climat de peur, il y a un climat de fragilité intérieure à cause de ces choses. Saint-Esprit de Dieu, rends-nous libres à l'égard de ces choses, car nous les remettons entre tes mains. Fortifie-nous au nom de Jésus. Maintenant, fais-le maintenant. Onction de Dieu au Père. Onction de Dieu au Père. Au Père, au Père. Certains vont être un peu secoués. Il y a la puissance de Dieu qui va vous envahir maintenant physiquement. Physiquement. Onction de Dieu au Père. Au nom de Jésus. 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 Il y a quelqu'un ici, tu avais, depuis un moment donné, tu as des maux de tête chroniques au niveau de ta nuque, donc à l'arrière de la tête. Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Il le fait par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Gloire, louange, honneur à toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Fortifie-nous. Que ta parole soit véritablement notre nourriture ce soir. Au nom de Jésus, amen. Alors, avant de commencer la prise de parole, ce soir, nous allons être beaucoup enseignés. Nous n'allons pas beaucoup prier. Enfin, c'est déjà prier que d'être enseigné. Nous allons vivre un enseignement dans l'onction de l'Esprit, c'est-à-dire que pendant que nous n'aurons pas de temps de prière après. C'est plutôt que pendant qu'il y aura l'enseignement, Dieu va te visiter, te bénir, te remplir, te saisir, te guérir, ouvrir ton cœur et transformer ta vie. Pendant là, il y a une personne là qui est en train de qui a de la nourriture à portée de main. Laisse ta nourriture. Voilà. Laisse ta nourriture, s'il te plaît. Laisse ta nourriture. Tu as des amuse-bouches. Voilà, c'est ça qu'on appelle ça. Tu as des amuse-bouches à portée de main. Laisse ta nourriture. Voilà. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, j'aimerais que toutes les personnes qui ont été visitées par ce temps de prière que nous sommes en train de prendre, que nous avons commencé à prendre, je veux que vous mettiez simplement un amen en message. Tu as reçu une parole de connaissance, une visitation du Saint-Esprit, ton cœur est béni, tu as senti la présence de Dieu. Tu peux mettre un amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu pour Charlie. Quelqu'un d'autre commence déjà à être béni. Gloire à Dieu pour Mireille. Quelqu'un d'autre est béni. Blaise Marie, gloire à Dieu. Daniel, gloire à Dieu. Lucette, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Paul. Gloire à Dieu pour Paul. Gloire à Dieu pour Nour Sarah. Alors, nous allons aller un peu plus profondément dans les trésors de grâce que Dieu veut pour nous. Ce soir, nous voulons être libres en Dieu. Nous voulons être libres en Dieu. Gloire à Dieu. Amira, ça fait un bail. Alors, nous allons commencer notre enseignement. Il y a quelques années de cela, sinon quelques mois, j'avais pris un temps de prière parce que j'étais fatigué d'avoir des échecs dans ma vie affective, ma vie sentimentale, j'entends dire. En fait, après un échec, j'étais tellement déprimé que j'ai pris un temps de prière où j'ai interrogé Dieu, où j'ai pleuré devant la face de Dieu, où je m'en voulais terriblement parce que je me disais « Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi, pourquoi est-ce que je me comporte comme ça ? Pourquoi je suis comme ça ? » Je m'en voulais et je culpabilisais. Et pendant ma prière, j'ai parlé à Dieu avec beaucoup de sincérité, de tout mon cœur. Après avoir prié, je me suis endormi, tellement je priais, j'étais épuisé. Et là, je me suis retrouvé devant la mer, devant une grande étendue d'eau, devant une mer en fait. Et la mer s'est divisée en deux, j'étais emmené en dessous de la mer, dans un monde où il y avait plusieurs compartiments. Et donc, ces compartiments, je voyais des démons dans ces compartiments et je suis rentré dans l'un des compartiments. Dans le compartiment dans lequel je suis rentré, j'ai vu un homme et deux démons et puis un écran. Et je voyais ces deux démons qui enseignaient à cet homme comment détruire une famille, comment détruire un couple, comment détruire des gens. Ils étaient non seulement en train de l'enseigner, mais de l'accompagner. Et je voyais cette famille à l'écran innocente qui était complètement pas au courant de ce qu'elle était victime justement d'un complot démoniaque, qu'elle était victime en fait d'un mal qui ne venait pas d'eux, mais qui était provoqué, qui était réfléchi, qui était orchestré contre eux. Pas parce qu'ils étaient chrétiens, pas parce qu'ils étaient même parentés avec ces personnes-là. On n'est pas parenté aux démons, même pas parenté à la personne même à qui on enseignait ça, mais simplement parce que c'est des êtres humains. Et bien aimé, le diable n'aime pas l'homme. Le diable a de la haine pour l'homme parce que l'homme est aimé de Dieu. C'est pourquoi ce jour-là, j'ai réalisé une chose. Il y a une réalité dans ce monde que nous ignorons ou des fois que nous négligeons. C'est la réalité du combat contre le diable, contre le mal. Il est le mal personnifié parce qu'il est le père du mal, auteur du mal, dès les origines. Et frères et sœurs, ce que le diable fait va très très loin, très 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 loin. Lorsque l'apôtre Paul, qui était conscient de cette réalité, va dire que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, c'est parce que l'apôtre Paul savait que derrière les actes méchants, mauvais, posés par certaines personnes, il y avait des fois, bien souvent, ou la plupart du temps, l'œuvre du diable. Diable qui vient de diabolos signifie en français, signifie diviseur. Et Satana signifie l'adversaire. Frères et sœurs, quand tu es né juste parce que tu es un être humain et que tu es donc aimé de Dieu, tu es déjà en guerre parce que tu es un adversaire. Il y a plusieurs personnes ici qui ont été combattues depuis leur enfance. On a essayé de leur ôter la vie. Il y a des personnes ici, quand elles sont nées, ou même déjà dans le ventre, elles ont failli ne pas naître parce qu'elles ont commencé à être combattues. Le diable n'attend pas que tu aies un certain âge pour te détruire. À partir du moment même où tu es conçu dans le ventre de ta mère, il fait tout pour te détruire. Pourquoi ? Parce qu'il ne t'aime pas. Il veut faire du mal à Dieu en passant par toi. J'aimerais demander maintenant, en fait, à deux personnes d'ouvrir leur micro. Deux personnes chez qui il y a une... C'est quand même silencieux. Comme ça, ça me permet à chaque fois de savoir qu'il y a... On m'entend bien et tout ça. Et qui peuvent répondre justement « Amen ». Donc, Sista, c'est Alice.
Alice. Allô, on t'entend plus là, André.
Ok. Bon. Allô, André. Oui, Daniel.
Ouais, on ne t'entendait plus, mais c'est bon.
Ok. Une deuxième personne. Est-ce qu'une deuxième personne pourrait ouvrir son micro? Une personne chez qui c'est assez silencieux. Ok, super. Charlie. Je vois Charlie. Ok, Charlie, merci. Donc, Alice et Charlie, vous allez m'accompagner. Et donc, frères et sœurs, il y a cette réalité du combat contre le mal. Et dans mon expérience de vie, le fait d'avoir vu ces choses, après avoir vu ça, j'ai réalisé quelque chose, c'est que nous sommes vrais, véritablement, il y a vraiment un combat. Voilà. Il y a des personnes, depuis leur naissance, elles sont combattues. Il y a des personnes, et c'est le diable qui en est le responsable, même si l'homme aussi a aussi sa responsabilité. Il y a des gens qui sont violés très tôt. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, violés, abusés, insultés, maltraités, mal aimés, solitaires, haïs. Des personnes qui naissent avec des déformations de tout genre. Bien aimé, il y a véritablement un combat contre le mal. Et ne pas le réaliser, ne pas le comprendre, vivre en marge de cela, c'est être complètement inconscient parce que c'est s'exposer à la destruction de sa propre vie.
Amen.
À la destruction de sa propre vie. Et donc, ici, nous allons prendre le livre de la Genèse. Voilà, la Bible dit Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, voilà ce qui est dit. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu avait faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne manger aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répond à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. » La femme se dit, le fruit de cet arbre est beau, ils doivent être bons à manger. Parole du Seigneur. Marc 7, 21 et Proverbe 23, 7. Donc prépare Marc chapitre 7, verset 21. Et Proverbes chapitre 23, verset 6.
C'est bon. Hein.
Ok. Alors, bien-aimés, l'origine du mal, frères et sœurs, c'est l'acte libre de l'homme de dire non à Dieu et oui, non pas à Satan, au sens où il est, au sens de la personne de Satan, mais oui, en fait, à la tentation du diable qui va lui dire d'arrêter d'avoir pour maître et pour Dieu le Seigneur, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais Amen. D'avoir pour Dieu sa propre personne. Frères et sœurs, cet enseignement est très profond. J'aimerais que tu l'écoutes de tout ton cœur. Vraiment, si tu peux même fermer les yeux, parce qu'il faut que tu saisisses bien la profondeur de tout ce que je vais te dire. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien aimé, ce n'est pas une pomme. En fait, la réalité de ces choses, parce que c'est une image, vous savez, la Bible, la Bible est composée de plusieurs genres littéraires, qui viennent biblio, bibliothèque, c'est plusieurs genres littéraires. Et une bonne partie de la Genèse, en tout cas cette partie, est véritablement beaucoup imagée. C'est beaucoup d'images qui viennent pour nous faire comprendre des réalités célestes, des vérités divines. Alors, ce n'est pas une pomme, ce n'est pas une orange, ce fruit-là. C'est véritablement le choix que l'homme va avoir après avoir été créé par Dieu. La Bible va dire, non, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui va le dire, au numéro 51. Voilà. Le numéro 51 va dire ceci, 51 ou 52, mais je crois que c'est le 51. Il est écrit ceci, c'est que Dieu qui habite une lumière impénétrable a voulu faire participer l'homme à sa vie divine, homme qu'il a librement créé. Alors, frères et sœurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a créé l'homme, mais l'homme va avoir le choix soit d'accepter qu'il est créé pour Dieu, voilà, parce que le catéchisme de l'Église catholique va nous dire au chapitre 1 que l'homme est créé pour Dieu. On n'est pas créé pour soi-même, on est créé pour quelqu'un. Et l'homme a donc le choix entre accepter qu'il est créé pour Dieu ou se rébeller et décider qu'il va vivre pour lui-même. Amen. Il va vivre pour lui-même. Vous savez, c'est un combat de tous les jours, le désir de vivre pour soi-même. Mais il n'y a qu'à voir comment, quand on va au travail le matin, comment on se mire. Il y en a qui font une minute, il y en a qui font 15 minutes, il y en a qui font 20, 30. Certaines femmes vont jusqu'à 2 heures. Je vais vous dire une chose. Les personnes qui se mirent beaucoup sont des personnes foncièrement égoïstes. Pourquoi? Parce qu'elles, et des fois c'est la réponse qu'on va donner, pourquoi tu te mires? Ah, mais je veux être beau pour mon mari, belle pour mon mari. Je veux être beau pour que, voilà, je veux plaire à tel. Mais au fond, c'est pour se plaire soi-même. Les autres sont un miroir qui vont nous rassurer que nous pouvons avoir une bonne estime de nous-mêmes. Nous pouvons reconnaître et croire que nous sommes beaux ou belles. En fait, c'est véritablement être centré sur soi. Généralement, lorsqu'une personne n'est pas égoïste, plutôt que de beaucoup utiliser un miroir, si elle vit avec quelqu'un d'autre, elle va beaucoup demander à cette personne, est-ce que je suis bien habillée? Souvent, regardez, hein, ceux qui regardent plus le miroir que le regard de l'autre sont généralement très égoïstes. Pourquoi? Parce qu'elles sont centrées sur elles-mêmes. Ce n'est pas une science, hein, ce que je suis en train de dire, c'est un constat, et c'est voilà, un constat que j'ai essayé de vérifier quand même. Alors, l'homme veut vivre sa vie parce que l'homme veut être son propre maître. Vous voyez, lorsque Dieu crée le monde et même l'homme, il ne crée rien pour soi-même. Il crée les arbres, pas pour les arbres. Il crée l'homme, pas pour l'homme. Il crée les arbres pour l'homme, le soleil pour l'homme, la terre pour l'homme, mais il crée l'homme pour lui. Et frères et sœurs, une personne qui est parfaitement équilibrée devrait comprendre, et la nature l'enseigne, que nous ne vivons pas pour nous-mêmes. C'est un faux enseignement que nous donne le monde en disant « vis pour toi-même, sois centré sur toi, occupe-toi de ta vie, les autres. » Non, non, il faut faire très attention. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés comme ça par les coachs et les motivateurs. Bien aimé, c'est un mensonge de Satan. Vous savez, amen. Beaucoup de coachs et de motivateurs sont mus par le diable. Je répète ce que je dis, mus par le diable. Et c'est dommage, amen, qu'il y ait autant de chrétiens, autant de personnes averties qui ne réalisent pas qu'en réalité la parole... Non. Vous savez ce qui vient de se passer?
Ah bon?
Mon enseignement vient de se supprimer. Merci, mon Dieu. c'est revenu. Qui se laissent avoir par le monde. Bien-aimé, tu n'es pas né pour toi-même. Tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour quelqu'un. Et tu vis pour Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire amen fort.
Amen, amen.
Alors,
amen.
Il y a un philosophe qui s'appelle Aristote qui a dit que l'homme est un animal politique. Politique ici, ce n'est pas au sens de la gestion de la cité, c'est-à-dire le monde politique que nous connaissons. Politique ici, c'est social. L'homme est un animal social, c'est-à-dire que l'homme a besoin de vivre en société. L'homme, pour être épanoui, a besoin des autres, a besoin de quelqu'un. C'est la preuve qu'on ne vit pas pour soi-même, frères et sœurs. Si on vivait pour nous-mêmes, alors on pourrait s'habiller comme on veut partout où nous sommes. Vous savez, la raison pour laquelle je m'habille, je veux avoir un habillement pour aller au travail, un habillement pour dormir, un habillement pour l'église, un habillement pour ci ou pour ça, ce n'est pas tellement parce que j'en ai envie. L'envie va venir après parce qu'on est habitué à ça. Mais nous le faisons parce que nous voulons que le regard des autres sur nous soit un regard d'admiration, un regard de « tu es beau, tu es belle, tu es acceptable au milieu de nous. Tu peux rester avec nous. » L'homme est né et vit pas pour lui-même, il vit pour quelqu'un. Mais comme tu ne peux pas vivre pour un homme, tu dois vivre pour Dieu. Amen. C'est donc que finalement le mal, et c'est le but du diable mal, le diable va tout faire pour pervertir ta vie en faisant quoi? En pervertissant tes pensées. Et c'est sur ça que va s'axer mon enseignement. S'il vous plaît, écoutons bien. Tes pensées. La Bible dit dans Marc au chapitre 7, le verset 21, je lis. Marc, le chapitre 7, le verset 21. En effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur du cœur humain. Ainsi, les gens ont une vie immorale, ils volent, ils tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils veulent avoir toujours plus. Ils font du mal aux autres, ils les trompent, ils se conduisent n'importe comment, ils sont jaloux, ils disent du mal. Bien-aimés, tout vient du cœur. Et le cœur de l'homme, qu'est-ce que c'est? Le cœur, en réalité, c'est l'âme. Pourquoi est-ce qu'on, quand on parle de l'âme, on parle du cœur? C'est parce qu'on considère que l'âme, est le cœur est le siège de l'âme. L'âme, est spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui pompe le sang. Et le sang, c'est la vie. Scientifiquement parlant, nous savons que dans le sang, il y a l'énergie, le glucose, justement, qui permet le mouvement du corps, le fonctionnement de l'organisme. Et en réalité, puisque c'est le cœur qui pompe le sang, et que, en vérité, c'est ce sang-là qui donne la vie au corps, alors on substitue le cœur. Quand on parle du cœur, on parle de l'âme. Pourquoi? Et simplement parce que le mot vie, parce que le cœur donne la vie au corps, ou du moins le fonctionnement du corps, le mot vie en grec, c'est psouké, et psouké signifie vie, mais signifie aussi âme. Donc, voilà. Du coup, quand on parle de cœur, on parle de l'âme. Et qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est le principe vital de l'homme. C'est-à-dire que c'est l'âme qui permet à l'être humain d'être un être vivant. Et bien aimé, c'est dans l'âme qui est justement le principe vital de l'homme, dans lequel, frères et sœurs, il va y avoir le siège des pensées. Les pensées. Et bien aimé, le diable et le combat contre le mal, c'est cela. Le diable, en réalité, a compris, comme on le voit dans Genèse chapitre 3, que pour détruire l'homme, il faut salir, il faut souiller ses pensées. Beaucoup de gens pensent que le péché, c'est la fornication, c'est voler, c'est tricher. Jésus dit qu'en réalité, tout vient du cœur de l'homme. Ça vient de nos pensées, frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour en me disant, frère, j'ai commis tel péché. Je lui ai dit, tu as remarqué la chute là, mais tu n'as pas trébuché à cet endroit-là. Tu as trébuché d'abord en pensée. Bien-aimé, est-ce que vous savez, est-ce que nous savons que tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons comme attaque, l'essentiel de l'attaque, l'essentiel de ce qui fait les attaques démoniaques, c'est dans les pensées. Parce que c'est à partir des pensées que nous commettons le péché. Ne nous y trompons pas. Une personne qui a ses pensées perverties va extérioriser cette perversion-là au travers de son corps. C'est d'ailleurs pourquoi, généralement, en vérité, le corps n'est pas responsable du fait que nous commettions des péchés. C'est nos pensées, c'est nos pensées perverties. C'est nos pensées que nous laissons aller à la perversion. C'est pourquoi le gros du combat contre le mal se fait au niveau des pensées. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de lire la Bible, c'est bien de faire certaines choses. Mais il faut que tu comprennes ceci. Si tes pensées ne sont pas renouvelées par le Saint-Esprit, tu ne seras pas une nouvelle créature. Tu seras une nouvelle créature de nom, tu seras une nouvelle créature dans ce que tu proclameras, parce que tu proclames la Bible, mais il n'y aura pas la réalité de cette nouvelle création-là dans ton quotidien. Il y a des personnes qui disent, quand ils vont me voir, « Ah, mais frère André, mais comment tu fais pour prier ? Comment tu vas faire ? Mais toi, comment tu vas faire pour ne pas commettre tel péché ? Ah, mais moi, je n'arrive pas à gérer, à rester sans avoir de rapport sans tromper ma copine ou ma femme, etc. Et la personne est étonnée de voir, par exemple, qu'un frère, une sœur arrive à le faire, mais comment tu arrives à tenir, tu es dans une relation à distance, mais tu es, voilà, mais comment tu arrives à tenir de ne pas voler, comment tu arrives à tenir de ne pas voler dans un endroit où il n'y a pas d'argent, où il y a de l'argent. En fait, tout vient des pensées. Si dans tes pensées, tu es mort, si dans tes pensées, tu es perverti, le corps va suivre. Ce n'est pas tellement que dans ton corps, Dieu veut que tu pêches ou que c'est plus fort que toi. Ce n'est pas plus fort que toi. C'est tes pensées qui sont tellement perverties que le diable te fait croire que c'est plus fort que toi et que c'est ta nature. Amen.
Amen, 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 amen.
Alors, ça vient du cœur, ça vient des pensées. Le corps, frères et sœurs, c'est ce que nous voyons, ce qui est en rapport avec l'extérieur. L'esprit, c'est ce qui fait que nous soyons à l'image de Dieu, dans le sens où l'esprit, puisque la Bible dit que Dieu est esprit, nous aussi, puisque nous sommes esprit, parce que nous avons une partie de nous qui est esprit, ça fait en sorte que nous pouvons être en connexion avec Dieu, ça fait en sorte que nous pouvons être poussés au bien, ça fait en sorte que nous pouvons aimer le bien, nous pouvons aimer la justice. C'est dans l'esprit, frères et sœurs, qu'il y a la conscience. C'est dans notre esprit qu'il y a la réalité, justement, du bien, frères et sœurs. Et l'âme, comme je disais, c'est le principe vital. Comment le diable va souiller notre âme? Comment le diable va souiller nos pensées en souillant notre âme? Puisque l'âme est le principe vital, l'âme est la vie, alors le diable, en souillant l'âme, va souiller et répandre la mort dans notre esprit et dans notre corps. C'est pourquoi on peut parler de mort spirituelle, une personne qui est coupée de Dieu. Et il y a aussi la mort physique. Vous voyez, Jésus a vaincu la mort, mais la mort physique est la conséquence du péché. C'est ce que nous montre aussi le livre de la Genèse. Mais la mort physique est liée justement au fait que l'âme a été pervertie parce que le diable a tenté l'homme. Et nous allons voir que Ève et Adam vont désirer être comme Dieu, au sens où désirer être maître d'eux-mêmes et vivre pour eux-mêmes. C'est donc que lorsqu'une âme, lorsque des pensées sont souillées, c'est le corps entier qui est souillé. C'est la vie tout entière de la personne qui est souillée. Lorsqu'une âme est souillée, lorsque des pensées sont souillées, lorsqu'une personne n'est plus bien pensante, lorsqu'une personne dans son cœur est mal pensante, je ne sais pas si ça peut se dire, lorsqu'une personne a des pensées négatives, ça a une répercussion dans sa vie. Si tu penses mal contre toi-même, si tu penses que tu n'es rien, si tu es blessé dans ton âme, si dans tes pensées tu considères que tu n'est rien si tu considères que tu n'es pas digne de Dieu, que tu n'as pas Dieu dans ta vie, que tu es trop pécheur, que tu es ci ou ça, il y aura de la répercussion. C'est pourquoi si tu penses que Dieu t'aime, si tu penses que tu es faite pour la sainteté, si tu penses que tu es faite pour aller au ciel, il y aura de la répercussion dans ton esprit et dans ton corps. Si tu penses que tu es faite pour l'excellence, Amen. Alors il y aura de la répercussion dans ta vie. Amen.
Amen.
Alors comment est-ce que le diable justement va souiller nos pensées? La Bible dit dans Proverbes chapitre 3, le verset 7. Proverbes chapitre 3, le verset 7. Un instant. Je suis en train de chercher le passage.
J'ai trouvé.
D'accord. Un instant, ne coupe pas. Je vais profiter pour regarder aussi. Donc. Voilà. Donc, Proverbes chapitre 23, le verset 7.
23, verset 7.
Ouais, c'est non, bon. Proverbe 23. Vas-y, tu peux lire.
D'accord. 23, verset 7. Car il calcule tout. Il en est ainsi fait. Il te dit mange et bois, mais il n'est pas de cœur avec toi.
D'accord.
Je lis encore.
Je ne sais pas si toi et moi on a la même version.
Lis un peu ta version.
Alors, moi, dans ma version de la Bible, il est dit ceci et j'aime beaucoup d'ailleurs. Je lis.
Vas-y.
Alors, il est dit ceci, que car l'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Bien-aimé, ce que tu es, c'est ce que tu penses. Si tu penses que tu es enfant de Dieu, si tu médites que tu es enfant de Dieu dans ton cœur, alors tu vivras en enfant de Dieu. Ce que tes pensées sont, c'est ce que tu es. Si tes pensées sont perverties, en fait, tu seras un être pervers. Mais si tes pensées sont assainies, tu seras une personne sainte. 1 Samuel chapitre 16, verset 11. Et 2 Samuel chapitre 11, verset 2 à 5. La première chose que le diable va faire, 1 Samuel 16 à 11. La première chose que Dieu va faire, que le diable va faire pour pervertir les pensées d'une personne, écoutez-moi bien, c'est la peur. La peur. Bien-aimé, la peur est une atmosphère. La peur. Et comment est-ce que la peur va rentrer dans le cœur de l'homme? Le démon va justement suggérer à la personne que ce qui est en face d'elle, elle est incapable de surmonter ça, elle n'en a aucun moyen, et que, à cause de cela donc, sa vie, sa personne, son quelque chose qu'elle aime est non seulement en danger, mais est potentiellement destructible. La peur, frères et sœurs, c'est par exemple ce que nous voyons dans 1 Samuel 16 à 11, quand justement le roi Saül, le grand roi Saül qui a tué des milliers de Philistins, roi d'Israël, va se retrouver devant Goliath et il va avoir peur de Goliath. Parce que Goliath est grand, il est fort, il est puissant, il va avoir peur. Et à cause de la peur, justement, qui va naître dans ses pensées, Saül va tomber dans la déchéance. Il aura peur de Goliath. Dieu va susciter David, il va jalouser David et ça va le mener à la mort. Bien-aimé, tes pensées sont perverties et souillées par la peur. Il y a des personnes, même lorsqu'elles sont devenues chrétiennes, malgré le fait qu'elles soient baptisées du Saint-Esprit, ont peur. Ont toujours peur. C'est-à-dire que, vous savez, ça arrive des fois qu'il y ait que la peur veuille. Voilà. Le courage, bien aimé, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est malgré la peur, faire ce que Dieu te demande de faire, quand même, dit Joyce Meyer. Mais bien aimé, vivre dans l'état de peur, dans l'atmosphère de la peur de l'avenir, la peur que ses parents meurent, la peur de perdre de l'argent, la peur que son appartement brûle, la peur de perdre de l'argent, la peur de ne pas être à la hauteur pour Dieu, la peur de ne pas réussir sa vie, la peur d'échouer à ses études, la peur de ne pas réussir sa vie sentimentale parce qu'on en a, on a beaucoup échoué. Bien aimé, le diable va tout faire pour que tu vives dans la peur. Parce que celui qui vit dans la peur est manipulable. Celui qui vit dans la peur va poser des actions et donc poser des actes, dire des paroles qui vont détruire sa vie. Il va s'auto-détruire. Parce que la peur t'enlève le bon discernement. La peur peut même t'emmener à être violent et méchant. La peur de perdre ton poste. La peur, bien-aimé, va t'emmener justement, va obscurcir tes pensées. La peur, bien-aimé, va souiller tes pensées et à cause de la peur, parce que tu vas vivre dans la peur et penser dans la peur, tu ne vas donc plus regarder les choses comme un enfant de Dieu. Tu vas regarder les choses comme le diable, frères et sœurs. Amen.
Amen. Fort.
Deuxièmement, le démon va obscurcir nos pensées.
Excuse-moi. Répétez, s'il te plaît.
Celui qui a peur pense comme le diable.
Amen.
Voilà. Celui qui va avoir peur pense comme le diable. Parce que lorsque tu as peur, lorsque tu as peur et que tu vis par la peur, que tu te laisses dominer par la peur et que tes pensées sont remplies de la peur, en fait, tu vas trouver tous les moyens possibles et tu vas rentrer dans l'adage du la fin justifie les moyens. Voilà. Pourquoi ? Parce que tu veux t'en sortir. Eh bien, mais la fin justifie les moyens, ça veut dire que même le mal, et surtout le mal, parce que quand on dit que la fin justifie les moyens, ça va surtout signifier qu'on peut dévier justement et utiliser toutes sortes de méthodes, toutes sortes de choses pour parvenir à ses fins. Voilà. Donc, la peur, frères et sœurs, vivre dans la peur de ne pas plaire à Dieu, la peur d'être, de ne pas changer de vie, la peur de ne pas réussir son mariage, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de ne pas aller au ciel, la peur. Deuxièmement, le diable va souiller nos pensées, comment ? Et donc, souiller notre vie, souiller notre âme, et c'est véritablement le principe du combat contre le mal, nous allons le voir avec Jésus-Christ de Nazareth, il va nous tenter sur ce que nous aimons. Amen.
Amen. Amen.
Écoutez bien ce que je vais dire, c'est très important. Il va nous tenter sur ce que nous aimons, que ce soit en, bien en apparence ou mal en apparence. Je m'explique. Dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 11, le verset 2 à 5, nous voyons David, le grand roi David, qui va désirer une femme, qui va voir une femme, avoir un désir pour elle, parce qu'il va la voir prendre sa douche. Un gars qui est bien, un gars bien, David, il va être tenté par le diable qui va lui dire, mais tu es le roi, tu peux coucher avec elle. Et David va céder à ça, parce que David est attiré et aime cette femme. En tout cas, il la désire tout au moins. On parle ici d'amour éros. Quand on parle d'amour éros en grec, il s'agit ici de l'attrait charnel. Et donc, le diable va te tenter sur ce que tu aimes. Et des fois, nous en avons honte parce que dans nos cœurs, des fois, nous aimons des choses mauvaises, des choses qui, nous le savons, sont mal. Il y a des personnes qui aiment le partenaire de leur ami, la partenaire de leur ami. Il y a des personnes qui aiment leur cousine, leur cousin. Tu sais que c'est mal, tu le sais. Il y a des personnes qui aiment insulter. Il y a des personnes qui aiment piétiner les autres. Il y a des personnes qui aiment se sentir puissantes. Il y a des personnes qui aiment blesser les autres. Il y a toutes ces choses mauvaises sur lesquelles le diable va te tenter parce que tu aimes le mal. Voilà, tu aimes le mal. Vous savez, c'est extraordinaire. Il y a des personnes, parce qu'elles sont blessées intérieurement, vont aimer faire souffrir les hommes ou faire souffrir les femmes. Des personnes qui vont devenir des fois impassibles. Il y a des personnes qui sont même des fois presque dénuées de sentiments. Tu as l'impression, tu te demandes si c'est un être humain, est-ce qu'elle a un cœur? Elle aime le mal. Le mal excite cette personne. Le mal, cette personne aime le mal. Il y a des personnes qui aiment vraiment le mal. Ça existe. Et si tu regardes bien ta vie, tu vas te rendre compte que à bien des égards, tu as aimé le mal. Il y a des personnes qui aiment... excusez-moi d'en parler ici. Il y a des personnes, par exemple, qui aiment l'échangisme. Voilà. Il y a des personnes qui aiment ça. On va dans l'ordre du fantasme. Ça, c'est ça. Vous savez, le fantasme, c'est quelque chose que nous aimons, mais nous savons que ce n'est pas bien. Il y a des personnes qui vont jusqu'à... assouvir leur fantasme. Je vais vous dire une chose, on n'assouvit jamais un fantasme. Ne faites jamais ça. Parce que le fantasme est foncièrement mauvais. Voilà. Le fantasme, je répète, est foncièrement mauvais parce que le fantasme est quelque chose d'interdit auquel nous avons un certain attrait parce que justement, un, c'est interdit et deuxièmement, ça va dans ça emmène à une forme de liberté qui va aller jusqu'à la destruction de soi, la souillure de soi et finalement le déshonneur de Dieu. Enfin, Dieu n'est pas déshonoré, mais Dieu est déshonoré en notre personne. Amen. Voilà.
Amen.
Donc, il y a des gens qui vont aimer le mal, qui vont être souillés dans leurs pensées par la tentation. Vous savez, quand le diable te tente, si tu ne prends pas les armes qu'il faut, la tentation du diable te souille les pensées. Et quand tes pensées sont souillées, un peu comme Ève, tu suis les pensées de ton cœur. Voilà. Alors, la deuxième chose, c'est, je parlais de la tentation sur ce que nous aimons. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, en bon stratège, tu ne vas pas tenter quelqu'un sur ce qu'il n'aime pas. Si tu veux empoisonner une personne, tu vas lui donner quelque chose qu'il aime boire ou quelque chose qu'il aime manger. Pourquoi? Parce que ce qu'on aime, on va vers ce qu'on aime. Voilà. Et donc, le diable va te tenter sur ce que tu aimes, que ce soit mal ou bien. Et je parle de bien en apparence, parce que le bien, finalement, c'est la volonté de Dieu pour toi. Le bien, ce n'est pas ce que tu crois forcément te faire plaisir, ou même ce qui semble légitime, ou qui peut l'être même en réalité. Lorsque nous regardons 2 Samuel chapitre 6, versets 5 à 9, c'est une histoire assez extraordinaire. Je vais la lire parce que beaucoup ne la connaissent pas dans la Bible. 2 Samuel 6, versets 5 à 9 dit ceci. Donc 2 Samuel chapitre 6, versets 5 à 9. Voilà, je lis. Alors, ce coffre porte le nom du Seigneur de l'univers qui est assis au-dessus des chérubins. Il se trouve dans la maison d'Abinadab, sur la colline. On le place sur un char neuf, on l'emmène. Uzza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisent le char où se trouve le coffre. Ahio marche devant, David et tous les Israélites montrent leur joie devant le Seigneur en jouant toutes sortes d'instruments. Quand il arrive près de chez Nacon, là où on bat les céréales, les bœufs glissent. Uzza étend la main pour retenir le coffre sacré. Alors le Seigneur se met en colère contre lui. Il le frappe à cet endroit. À cause de ce geste, Uzza meurt. Le coffre dont il s'agit ici, c'est l'Arche de l'Alliance. C'est la représentation de Dieu. Voyez. Et donc, Uzza qui aime Dieu, d'une certaine façon, le coffre de Dieu a failli tomber parce que les bœufs qui transportaient ce coffre ont glissé. Uzza va venir attraper le coffre pour que ça ne tombe pas. Dieu se met en colère et Uzza meurt. Amen. C'est extraordinaire, hein? Et pourtant, c'est une bonne chose. C'est comme si quelqu'un me disait que, par exemple, La croix dans une église veut tomber, puis toi tu viens, tu attrapes vite pour soutenir la croix et puis la remettre en place, et puis tu meurs. Extraordinaire. Ça a l'air incompréhensible. Regardez. Ce n'est pas parce que quelque chose a l'air bien en apparence et bien selon la morale que ça veut dire que c'est bien pour toi.
Amen.
Ce n'est pas parce que quelque chose est bien en apparence et bien selon la morale que ça veut dire que c'est bien pour toi. Excusez-moi, je vais vous dire la vérité. Il y a des gens pour qui ce n'est pas bien de boire.
Oui. Ouais.
Il y a des personnes pour qui ce n'est pas bien de boire de l'alcool, même si ça a l'air, même si c'est légitime finalement. Même sur le plan humain, il y a ces réalités-là qui nous sont quand même, que nous pouvons constater naturellement. Il y a des allergies. Et les personnes qui sont allergiques aux crustacés, par exemple, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas parce que quelque chose a l'air bien, est légitime pour tout le monde, que ça veut dire que c'est bien pour toi. Et comme le diable le sait, il peut te tenter sur quelque chose qui a l'air normal et bien, et qui l'est de fait, mais qui en réalité ne l'est pas pour toi parce que Dieu ne veut pas ça pour toi à ce moment-là. Il faut, ne nous trompons pas. Lorsque Satan va te tenter, il ne va pas forcément te tenter pour que tu poses un acte amoral, un acte, un péché de soi-là. Il va te tenter aussi, et c'est le plus dangereux, sur ce qui peut être, ce qui est légitime pour ta vie, ce qui est normal, ce qui est bien en apparence, mais qui en réalité est un moyen de destruction pour toi. Je vous donne un exemple. Si par exemple, tu as ton petit frère qui est un fumeur de chanvre, qui détruit sa vie. Et donc, ton petit frère, est tombé malade, voilà, par exemple. Et puis, il tombe malade le jour où tu dois aller prêcher. Par exemple, je donne un exemple. Tu dois aller prêcher dans un endroit, prier pour un malade, prêcher quelque part. Le démon peut te tenter, si jamais Dieu veut quand même que tu y ailles, le démon peut te tenter en te disant, mais ton petit frère est malade quand même. C'est la famille. Donc, toi, tu préfères les gens du dehors plutôt que ta propre famille.
Ouais.
Et tu vas aller Amen. Auprès de ta famille alors que Dieu ne t'attendait pas là. Un exemple Amen. Parmi tant.
Ouais.
Le démon peut te tenter sur ce qui est bien. Dieu ne veut pas que tu aies quelqu'un maintenant où le Seigneur ne te recommande pas une personne. Toi, parce que tu aimes et que c'est normal, tu vas quand même le faire. Satan sait que derrière le bien, derrière ce bien-là, il y a ta mort. Donc, il va te tenter, te pousser à aller quand même. Faisons vraiment attention. Donc, tes pensées peuvent être perverties non seulement par des actes immoraux aussi, mais tes pensées peuvent être perverties par quelque chose qui est légitime ou bien en apparence, mais qui en réalité va t'éloigner du plan de Dieu. Je connais un frère, le Seigneur ne le voulait pas en France, et lui était beaucoup tenté de repartir là-bas. Il est venu au Gabon, il était tenté de repartir là-bas. Il était tellement tenté de repartir là-bas au tout début, il a failli le faire. S'il y allait, en fait, il allait contre la volonté de Dieu. C'était une tentation du diable. Voilà. Il n'y est pas allé et effectivement, le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie. Donc, faisons vraiment attention. Alors, troisième point par lequel le démon, justement, va souiller nos pensées, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi? Alors, les réseaux sociaux sont un moyen par lequel le démon va passer pour souiller nos pensées, pour que nous tombions dans toutes sortes en fait, de mots, justement, qui vont nous éloigner de Dieu. Pourquoi je dis ça? Dans les réseaux sociaux, frères et sœurs, il y a le moyen de faire le bien. Il y a de la nécessité. C'est nécessaire un réseau social aujourd'hui. C'est bien pour communiquer, c'est facile et tout ça. Mais vous savez, et je vais vous le dire de façon très honnête, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Dieu n'a pas tout créé. Dieu a tout créé au sens où Dieu a créé des choses, il a tout créé avec un certain ordre, mais Dieu n'a pas créé le mal. Et lorsque quelque chose est justement initié à but négatif, Cela ne vient pas de Dieu, cela sert le mal. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir propager l'évangile, pour pouvoir réussir certaines choses, faire de la publicité. Mais sachez-le, au départ, beaucoup de ces réseaux sociaux-là n'ont pas été créés pour ça. Ça a été créé, inspiré par le diable, pour le maximum de souffrance dans le monde. Je vais vous dire pourquoi. Regardez. Il est écrit dans 2 Timothée au chapitre 3, le verset 1 à 7. Je vais lire. Donc 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 7. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 7. Voilà ce qui est écrit. Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci, ils ne respecteront plus des choses de Dieu, ils seront durs, sans pitié, ils diront du mal des autres, ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis du bien, ils trahiront les autres, ils seront violents, l'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Je répète, ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Il s'agit ici d'une Il s'agit ici d'un... Quand on remplace quelque chose à la place de Dieu, d'une idolâtrie. Voilà. Aimer le plaisir au lieu de Dieu. Le plaisir bien aimé est aussi une idole. Ou un idole, je ne sais plus comment on dit. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi.
Amen.
Tourne le dos. Et l'apôtre Paul va dire ceci à Timothée, tourne le dos à ces gens-là. Certains d'entre eux ont l'habitude d'aller dans les maisons et ils prennent dans leur piège des femmes faibles, chargées de péchés qui traînent, qui n'ont pas une foi solide. Il y a des gens, quand on leur dit...
André, excuse-moi, tu peux donner la référence, s'il te plaît. Pardon, demande un commentaire.
2 Timothée 3, 1 à 7.
D'accord, merci.
Il y a des personnes, quand on leur dit que ce n'est pas tout le monde qu'on prend comme ami, ces personnes sont bornées. La parole de Dieu est claire. Le démon utilise les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que, ici, c'est extraordinaire, l'apôtre Paul prophétise en disant que dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, orgueilleux, ils se vanteront, sans même savoir à cette époque-là qu'il y aurait des réseaux sociaux qui permettront de pouvoir, en se vantant, détruire le maximum de personnes. Les réseaux sociaux sont un lieu où on apprend aux gens l'orgueil. Parce que tout le monde va aller sur les réseaux sociaux pour exposer sa style life, hein, c'est ça, non? Les gens vont sur les réseaux sociaux pour donner envie aux autres. Parce qu'ils se disent, ou même sans se le dire, instinctivement, ils se disent, quand les autres nous voient bien, alors ça veut dire que nous sommes bien. Quand les autres pensent que nous sommes heureux, alors nous sommes heureux. C'est faux, c'est pas vrai. Des femmes vont exposer leur corps sur les réseaux sociaux pour des vues et des likes parce qu'elles veulent être reconnues comme étant belles puisqu'elles se sentent obligées justement d'être complimentées par les autres pour avoir de l'estime de soi. Voilà. Les réseaux sociaux, vous savez, j'ai regardé un documentaire il y a quelque temps sur le réseau social Facebook et Instagram. Et ceux qui ont créé ces réseaux sociaux-là, non seulement leurs enfants ne les utilisent pas parce qu'ils l'interdisent dans leur maison, des fois eux-mêmes ils ne l'utilisent même pas, et ils signifient bien aux gens que quand ils ont fait ces réseaux sociaux, c'était à but addictif. Le but en fait c'est l'addiction, c'est vraiment qu'on soit addict à ça. Et lorsqu'il y a de l'addiction quelque part, alors il y a une privation de liberté. Et s'il y a privation de liberté, ça voudrait dire qu'il y a l'action du démon. Le démon veut justement que l'homme utilise sa liberté pour le mal, surtout pas pour Dieu, que l'homme soit addict et privé de sa liberté pour pouvoir justement vivre dans le mal et se souiller à outrance. Bien-aimé, tu es sur un réseau social aujourd'hui, tu regardes des trucs et puis comme par hasard, il va apparaître par exemple une image pornographique. Frères et sœurs, les réseaux sociaux. Ensuite, l'enseignement est presque fini. Dernier point, il y a le prochain point, c'est le doute. Luc chapitre 4, versets 1 à 12, on voit comment le démon veut faire douter Jésus-Christ. Le doute. Alors, Satan va te suggérer, va souiller tes pensées en te suggérant le doute. Comment ? Est-ce que tu es sûr que Dieu peut faire ça pour toi ? Comment ça se fait que tu es Dieu dans ta vie, mais depuis là, tu as du mal à l'école ? Comment ça se fait que tu es Dieu dans ta vie, mais ceux qui commettent le mal sont riches ? Comment ça se fait que tu es Dieu dans ta vie et puis tu n'arrives pas à voyager ? Comment ça se fait que tu es Dieu dans ta vie et puis on te fait du mal comme ça ? Comment ça se fait que tu es Dieu dans ta vie et puis dans ta famille, on ne t'aime pas ? Comment ça se fait que tu es Dieu dans ta vie et puis tu as des crasses qui t'arrivent comme
comment,
ça ?
Comme en avance.
Yes. Tu es Dieu dans ta vie, mais regarde, il y a une voiture qui vient de passer de t'éclabousser. Mais toi, mais comment ça se fait que tu es Dieu dans ta vie ? Tu tombes malade. Comment ça se fait que tu es Dieu dans ta vie, mais tu n'as pas ce que tu veux ? C'est ça le sens de la tentation du Christ. Amen. Surtout le moment de la tentation pour le pain. Comment ça se fait que tu es Dieu dans ta vie, tu n'as pas ce que tu veux?
Comment?
Et donc, frères et sœurs, Satan va te suggérer le doute, va te suggérer un certain nombre de tentations pour que tu doutes, de sorte que dans le doute, ta foi soit justement inactive et ta foi soit, comment dire, que tu aies la foi qui soit brisée, voilà, que tu ne puisses plus vivre par la foi parce que le juste vivra par la foi. Dernier point, le démon va pervertir nos pensées par l'hypersexualisation ou l'hypersexualité. Il va faire croire illusoirement qu'une sexualité vécue comme on le veut peut rendre heureux, ou que ça procure un plaisir qui rend heureux. C'est un mensonge, frères et sœurs. Une sexualité qui n'est pas vécue en Dieu va provoquer quoi? Contrairement à ce que l'on pense, contrairement à ce que l'on croit, à ce qui nous fait croire, les conséquences de ces choses-là sont quoi? Alors, je sais que c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est la vérité, vous le savez, nous le savons, et ça va permettre à beaucoup de voir ces choses-là à la lumière de la parole de Dieu. Lorsqu'une personne vit dans l'hypersexualité, lorsqu'une personne vit sa sexualité comme elle veut, c'est un piège et un nid pour les maris de nuit, les femmes de nuit, les démons. C'est un piège pour, ça peut être une addiction. Il y a des personnes qui deviennent des nymphomanes et même que lorsque nous parlons justement d'addiction, justement, donc privation de liberté, une personne, parce qu'elle s'est habituée à vivre une sexualité désordonnée, peut avoir l'impression, peut voir ses pensées tellement souillées qu'elle va penser en fait qu'elle ne peut être heureuse que par ça. Elle va être addicte à ça. Alors, ça va causer aussi quoi ? La pornographie, la délinquance, à cause justement d'une sexualité mal vécue, à cause du fait que les gens ne comprennent pas que ce que Dieu dit, c'est pour notre bien, nous observons les viols, la bestialité, la sécheresse financière. Alors, beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de femmes aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, et j'en ai rencontré pas mal avec qui on en a discuté, vivent aujourd'hui des temps difficiles sur le plan financier parce qu'elles ont mal vécu leur sexualité. Il faut le savoir, même si tu penses que tu peux le faire comme ça et puis passer et puis c'est fini, sache qu'il y a des conséquences derrière. Une autre conséquence, ça va être la difficulté à aimer. Donc, le fait de confondre justement un rapport intime avec l'amour. Voilà. Il y a des personnes qui ont justement ce problème-là, c'est une maladie presque. Une maladie sur le plan intérieur, parce que notre cœur devient malade, la difficulté à aimer, les personnes qui vont confondre le désir et l'amour, Il va te dire qu'il aime telle femme, mais qu'il aime aussi telle femme, alors qu'en réalité, il aime juste sortir avec elle. Mais il ne sait même plus confondre parce qu'intérieurement, il est malade, il est perverti dans ses pensées. La difficulté à faire confiance, lorsqu'un homme sort avec beaucoup de femmes, lorsqu'un homme vit une certaine machin, surtout les hommes qui vont sortir avec les femmes d'autrui, sortir avec les copines d'autrui, lorsqu'une femme va le faire, lorsqu'une femme va sortir avec un homme marié ou faire des choses du genre, sortir avec un homme qui a déjà quelqu'un, elle aura du mal à faire confiance à son partenaire parce qu'elle sait, parce qu'elle a les yeux ouverts sur cette réalité de la faillibilité de l'homme, en tout cas d'elle-même, ses propres failles, elle va transposer ça chez l'autre. Sachez-le, hein, les gens qui ont du mal à faire confiance ou qui font difficilement confiance, ce sont des gens qui eux-mêmes, en fait, ont justement fait des choses qui vont contre la confiance, la plupart du temps. Le viol, chez les hommes, c'est cette sexualité mal vécue que le diable va nous suggérer dans nos pensées, en nous faisant croire que ça nous rend heureux, va causer justement le fait de chosifier les femmes. Alors vous, les femmes, vous n'êtes pas forcément au courant, mais nous, les hommes, nous le savons. Lorsque nous sortons avec une femme, nous n'avons plus pour elle le même respect. Il y a quelque chose en nous qui est brisé. Un homme va respecter une femme avec qui il n'est jamais sorti, mais va avoir un respect un peu moins fort pour une femme avec qui il est sorti, même s'il ne le dit pas, il ne le montre pas parce que c'est une personne bien. Mais il va bien le montrer généralement aux petites qu'il y a, il a dehors, parce qu'elle, justement, avec elle, il n'y a pas forcément l'intérêt du vivre ensemble ou des enfants ou des biens que nous avons en commun. Une autre chose que ça va causer, c'est le fait de se battre contre. Lorsqu'un homme ou une femme, justement, a déjà vie, justement, ne vit pas une sexualité selon Dieu ou ne l'a pas vécue, même lorsqu'elle devient chrétienne, elle ne sait plus ne plus chosifier les autres. Il va falloir qu'elle se rééduque. Elle ne sait plus voir dans l'autre une personne à aimer. De temps en temps, elle va voir en l'autre une personne à chosifier, une personne avec qui on peut avoir du sexe, sans des fois, tellement, ça va tellement être fort que cette personne va oublier que l'amour, c'est d'abord vouloir que la personne aille au ciel. Cette personne va même oublier qu'en fait, elle peut emmener l'autre en enfer. Elle va passer et négliger, banaliser ça à cause de son désir. Amen. Il faut dire amen fort.
Amen.
Amen.
L'autre chose, ça va être la tromperie. Amen. Le non-respect pour les femmes et sous aussi les hommes, le non-respect de son propre corps en se livrant à toutes sortes de choses. Et ensuite, le meurtre. Le meurtre. Le sexe est un lieu de prédilection du diable car il est lié directement à notre âme et à notre esprit et à la procréation. Du coup, le démon va pervertir nos pensées par rapport à ces choses-là. La société va pervertir nos pensées. L'esprit du monde, le diable, va pervertir nos pensées par rapport à ces choses-là. Parce que celui qui vit mal sa sexualité, celui-là, en fait, va voir beaucoup de choses dans sa vie. Il laisse, en fait, la porte et l'accès au diable pour tellement de choses. Comment justement s'en sortir? Et je vais aller un peu plus vite. Je prends ce point et puis la prochaine fois, on finira parce que c'est un peu long. Le premier point que je vais donner, et je vais m'arrêter là, et la prochaine fois, on aura la suite. Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Les yeux sont la lampe du corps, bien-aimé. Matthieu 6, 23. Les yeux sont la lampe du corps. Donc, si tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors, si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Dieu dit ceci, et je finis par là. Pour que nos pensées soient saines, pour que nous soyons sains, pour qu'il y ait cette œuvre de Dieu dans nos vies, le premier combat dans nos pensées, le premier combat contre les pensées, ce n'est pas d'abord la prière, ce n'est pas d'abord les jeûnes, c'est pas la volonté, c'est pas de dire « Seigneur, je t'aime », c'est pas avoir le bon cœur, c'est de discipliner son regard. Amen. C'est de discipliner son regard. Ce que tu vois, c'est ce que tu imprimes dans ton cœur. Si tu vois la parole de Dieu tout le temps, si c'est la Bible que tu regardes, alors c'est la Bible qui sera imprimée dans ton cœur, c'est la parole de Dieu. Si tu vois des couples qui s'aiment dans la vérité, arrêtez d'aller tout le temps dans les endroits où les hommes trompent leurs femmes. À force de voir ces choses, ça souille votre âme. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous en supplie, laissez-moi vous l'enseigner aujourd'hui. Arrêtez tout le temps de voir des choses mauvaises. Arrêtez de regarder des films tout le temps où on montre des choses négatives. Arrêtez de regarder tout le temps seulement les païens vivre. S'il vous plaît, ayez de regarder des choses bien. Regardez les exemples. Regardez les chrétiens. Regardez les personnes qui vivent la chasteté. Regardez les couples qui s'aiment. Regardez les miracles. Si tu ne vois pas de miracles dans ta vie, si tu ne vas pas sur Internet pour regarder des miracles, alors les miracles ne se feront pas dans ta vie. Ton âme et tes pensées ne seront pas touchées par le miracle. Comment faire pour avoir la foi? Il faut regarder les hommes de foi. Il faut regarder les actes de foi. Il faut regarder les œuvres de Dieu. Regardez les films qui concernent Dieu et la gloire de Dieu. Regardez les enseignements. Regardez les choses bien qui édifient vos âmes. La lampe de ton corps, ce sont tes yeux, le regard. À force de regarder les personnes qui, toi par exemple, qui veux tellement un enfant et qui n'arrive pas à en avoir, je t'en supplie, arrête de te faire du mal en regardant des personnes qui en ont. Et puis ça, non, quand tu vois des personnes qui en ont, tu sais que ça va te faire mal. Ne regarde pas, détourne le regard. Tu vas te blesser cadeau. Va plutôt regarder des témoignages de femmes qui ont enfanté dans la puissance du Saint-Esprit.
Amen. Amen. Fort.
Arrêtez de regarder ça. Arrêtez de regarder les femmes qui tiennent tête à leur mari ou à leur copain.
Comment?
Hommes, arrêtez de regarder les hommes qui trompent leurs femmes. Arrêtez de regarder les méchants. Arrêtez de regarder les hommes qui battent leurs femmes. Arrêtez de regarder les hommes qui pensent que être un homme, c'est avoir de l'argent. Arrêtez d'aller sur les réseaux sociaux pour regarder la best life des gens. Arrêtez de regarder les gens qui pensent que le bonheur, c'est dépenser de l'argent à outrance. Arrêtez de regarder les clips de rap où il n'y a que la nudité, l'argent et la perversion. Sinon, c'est ce que vous allez être. Vous allez vous battre contre ça, mais il faut plutôt se battre pour détourner son regard de ça. Battez-vous plutôt. Le combat n'est pas dans son cœur d'abord, au sens où le combat n'est pas dans tes pensées, au sens où tu dois te battre pour te dire que quand je regarde le clip là, je vais juste regarder telle partie, mais sinon telle partie, c'est bien. Il y a des gens, lorsqu'ils regardent des films, ils vont dire, ah non, mais il y a des parties de sexe, mais sinon le film est intéressant. Frères et sœurs, en combat, vous savez, vous avez en face de vous une personne qui vous voit, mais que vous ne voyez pas. Le diable vous voit, il en a vu des milliards comme vous, il en a fait tomber des milliards comme vous, il y en a des milliards qui sont allés en enfer. Mais vous, qui êtes-vous pour ne pas oser prendre les armes de Dieu et ne pas prendre en considération ce que notre bon et doux Seigneur nous dit pour le salut de nos âmes et pour le bonheur de nos vies? Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas heureux, non pas parce que de fait ils ne le sont pas, mais parce qu'ils passent leur temps à regarder des personnes qui leur font sentir qu'ils ne sont pas heureux, parce qu'ils regardent des trucs qu'ils n'ont pas, et donc ils qualifient leur bonheur en fonction de ça. Tu n'as pas 1 milliard dans ton compte, et alors? Tu n'as pas 2 millions de salaire, et alors? Tu n'as pas d'enfant, et alors? Tu n'es pas marié, et alors? Si tu passes ton temps à regarder ce que les autres ont, le bonheur des gens sur les réseaux sociaux est souvent un bonheur illusoire et méchant, parce que lorsqu'ils le font, ça fait mal aux gens, il n'y a rien d'édifiant là-dedans. Si tu passes ton temps à regarder ça, en fait, tu souilles ton âme. Tu souilles ton âme. Tu souilles ton âme par le regard. Il ne s'agit pas de ce que tu penses. Il ne s'agit pas de ta force ou du fait que tu sois influençable ou pas. Il s'agit du fait que le fait de regarder les choses, vont soit souiller ton âme ou l'édifier. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Amen.
Amen, 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 amen.
Mon enseignement est fini pour aujourd'hui. Il y a la suite, mais comme c'est assez long, nous allons prier un tout petit peu. Mais avant de prier un peu, nous allons prier, mais très, très peu. Hein. Je veux simplement que tu répètes, tu dises avec moi, Seigneur Saint-Esprit, purifie mon regard.
Purifie mon regard.
Et donne-moi maintenant au nom de Jésus.
Et donne-moi maintenant au nom de Jésus.
Le zèle.
Le zèle.
Regardez des choses édifiantes.
Pour regarder des choses édifiantes.
et la force de détourner mon regard.
De détourner mon regard.
Chose qui me pousse. Saint-Esprit de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu.
À la lumière de la parole de Dieu.
Fais-moi discerner.
Fais-moi discerner.
Ce qui me souille.
Ce qui me souille.
Ce qui m'édifie.
Ce qui m'édifie.
Afin, Seigneur.
Afin, Seigneur.
De rentrer. Dans un véritable bonheur en toi.
Dans un véritable bonheur en toi.
Arrache de mon cœur maintenant.
Arrache de mon cœur maintenant.
L'ivraie plantée par le démon.
L'ivraie plantée par le démon.
À cause de mes pensées souillées.
À cause de mes pensées souillées.
Arrache maintenant.
Arrache maintenant.
Dans mon cœur.
Dans mon cœur.
L'ivraie plantée par le diable.
L'ivraie plantée par le diable.
Ces suggestions qui vont contre la parole de Dieu.
Ces suggestions qui vont contre la parole de Dieu.
Mais que j'ai gardées et acceptées.
Mais que j'ai gardées et acceptées.
Je les refuse maintenant au nom de Jésus.
Je les refuse maintenant au nom de Jésus.
Et j'accueille ta paix et ta grâce dans ma vie.
Et j'accueille ta paix et ta grâce dans ma vie.
Amen.